Ça y est. Le plafond s'écroule sur ma tête. Le quoi ? C'est qu'on va déménager. On va quitter New York.
On va aller vivre en Israël.
Dans une ville qui s'appelle Haïfa. Cette mademoiselle Mulick qui lui a parlé d'un professeur à l'université de Haïfa qui est un des grands spécialistes des fontaines de lit. Même si je ne sais toujours pas ce que c'est la nouvelle passion de ma mère parce que mamie Hera y aurait séjourné toute petite entre ses familles ukrainiennes et allemandes et maman veut travailler sur ses archives à Haïfa. Et pour moi, il y aura une école qui s'appelle Hébreu Réali et je dois passer le reste de l'été à apprendre l'hébreu parce que si on parle pas l'hébreu, on peut pas aller dans cette école. Et mes amis !
Bonjour Catherine Barnas.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien, ça va très bien.
Alors je suis ravi de vous recevoir à Radio Grenouille pour parler du spectacle que vous allez présenter prochainement, qui n'est pas une création, je le rappelle, hein, Ligne de faille, adapté je crois du roman de Nancy Houston.
Adapté du magnifique roman de Nancy ouais. Houston.
Alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de monter ce spectacle à partir de ce roman et puis l'adapter aussi ?
Quelle idée folle, hein ? J'avais... avant de découvrir Ligne de faille, l'envie de faire au théâtre l'idée de renouer avec vraiment la narration avec un grand N, raconter des histoires, cette fonction du théâtre qui est aussi de raconter des histoires. Sur ces entrefaites, je lis Ligne de faille. Alors, même si quand on lit le roman, il n'y a pas, l'idée ne vient pas forcément immédiatement d'en faire du théâtre, mais néanmoins, la structure de Ligne de faille, avec cette remontée dans le temps, qui est comme une enquête policière sur quatre générations. C'est-à-dire, on commence en 2001, guerre d'Irak, et puis on remonte comme ça, années 80, années 60, puis années 40.
Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre.
Voilà, jusqu'à le bombardement de Dresde, en gros, en Allemagne. Du coup, cette structure-là m'a semblé alors, pour le coup, très théâtrale.
Mais pas immédiatement. Pas à la première lecture.
Pas la première lecture. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu la même réaction que beaucoup de gens en lisant le roman. C'est un roman très fort. Hein. C'est un roman qui parle à chacun vraiment sur notre propre enfance, sur les secrets de famille, sur toute cette chose-là.
C'est ça d'ailleurs.
C'est le thème. Et bon, une fois que je l'ai eu fermé, j'ai trouvé quelque chose. Je me disais, il y a quelque chose là-dedans qui peut être une matière éminemment théâtrale. J'en étais pas sûre néanmoins. Et j'ai voulu d'abord tester pour me dire, est-ce que ça a un sens ? J'avais très peur d'assécher le roman, de me dire, les fils, tous ces fils différents qui sont tirés dans ces remontées dans le temps, de dire, voilà, est-ce que le fait de sélectionner des choses ne risque pas de faire perdre ? Est-ce que l'incarnation elle-même a du sens ? Ou est-ce que c'est seulement l'imaginaire du spectateur qui produit ce sens-là ? Donc, par rapport aux intuitions que j'avais, je me suis dit, je me laisse ce luxe-là de le tester.
Avec seulement, je crois...
les deux premières parties, voilà. C'est-à-dire la partie 2001 et la partie 2002, pardon, et la partie 82. Donc, la moitié du roman. On a travaillé une matière qui était beaucoup plus large au départ. Moi, j'étais venue avec une pré-adaptation, mais qui était encore infiniment trop longue. Et je disais, plutôt que de partir d'un a priori de coupe absolue au départ, il faut qu'on joue beaucoup plus que ce qu'on va garder. Ce qui fait que Nancy Houston a été très sensible à ça, par exemple. Je dis toujours, ça peut paraître une coquetterie, mais ça ne l'est pas. C'est que les comédiens jouent aussi les coupes. C'est-à-dire que ce qu'on a travaillé, qui n'est finalement pas dans le spectacle, sert pour des gestuels, des regards, du jeu qui est là, même si les mots ne sont plus là.
Qui dit beaucoup de choses.
Absolument, absolument. Et ça, je vous dis, Nancy Houston a été sensible, elle l'a vu.
Oui, vous l'avez rencontrée, donc pour...
Ah oui, alors j'en ai eu la grosse chance, parce qu'il m'est inutile de vous dire que quand j'ai fait ce premier test, en me disant, est-ce que ça a du sens pour moi, pour le public ?
Elle a trouvé l'idée comment, lorsque vous lui avez soumise ?
Alors au départ, quand je l'ai contactée, je lui ai dit que j'avais envie de faire moi-même l'adaptation plateau, et je me... disait que peut-être ça l'aurait gênée, parce que je sais qu'elle a elle-même travaillé une fois à l'adaptation d'un de ses romans. Elle a adapté la Virevolte au théâtre. Donc je me disais peut-être qu'elle aurait envie de faire l'adaptation, ce qui m'aurait embêtée, puisque pour moi, ça dépendait vraiment du plateau. Et elle, ça l'a au contraire vraiment soulagée. Après, je crois qu'elle était quand même très... elle ne savait pas du tout ce que pouvait donner. Et on a eu la chance que... non seulement elle aime, mais vraiment, je crois que c'est notre fan la plus assidue. Elle a vu le spectacle 6 ou 7 fois. Et il y a une vraie amitié qui est née de ça. Un travail que j'ai fait avec elle, mais a posteriori, qui était magique. C'est-à-dire qu'on a quand même peu l'occasion de travailler avec un auteur vivant. Et de pouvoir échanger avec elle, on a travaillé pendant 2 jours ensemble après qu'elle ait vu la première mouture. Et
par rapport à la première mouture, elle n'a pas eu d'indication particulière. Elle a tout de suite adopté votre travail,
tout de suite,
votre présentation.
Tout de suite, c'est-à-dire que même, elle a trouvé ça très fidèle tout en étant une vraie création. Et en même temps, une lecture qui lui faisait voir des choses qui étaient dans son inconscient d'écrivain qu'elle n'avait pas forcément vues. Par exemple, je ne sais pas, mais des libertés que j'avais prises, par exemple, avec dans le roman, Hera, Christina Hera, est habillée en noir. Et dans ma mise en scène, elle est en rouge tout le temps. Parce que la poupée, la fameuse poupée qu'elle se dispute, a une robe de velours rouge. Et je disais, la poupée volée, c'est elle. On va pas dire l'intrigue, mais en tout cas, la poupée volée, c'est elle. Donc du coup, elle est en rouge comme la poupée. Elle s'est assimilée à cette poupée d'anglais. Et quand elle l'a vue, elle m'a dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est génial comme idée. » Parce que effectivement, elle ne l'avait pas perçue. Ou par exemple, je sais pas, l'occurrence de 3W qui revient plusieurs fois dans le roman, elle l'avait pas vue non plus. Enfin, c'était très intéressant cet échange-là.
Les cantiques au salon, la table de la salle à manger s'est dressée toute seule. Tu as dit à une voisine de venir faire ça ?
Moi ? Une voisine ? Non, bien sûr que non.
Elle n'a pas le droit de mentir, mais comment est-ce possible ? C'est chaque année le même mystère et j'arrive pas à le résoudre.
Elle a un tour ou un miracle ? L'année prochaine, j'espère, vous aurez plus d'un cadeau chacune.
Tu as déjà dit ça l'année dernière.
Comment vous avez travaillé sur l'adaptation du roman pour le mettre en scène ? Parce que, bon, je crois qu'il y a des dialogues, bien sûr, mais il y a aussi une part grande de monologue dans le texte.
Oui, oui, oui. Alors, il y a du récit à la première personne, hein, qui est le récit des enfants, toujours, puisque tout ça est vu à travers la tête de 4 enfants, puisqu'on
les personnages, les protagonistes, en fait, ce sont des enfants.
Ce sont des enfants. Donc, comme on remonte le temps, on va voir, par exemple, l'arrière-grand-mère qui va devenir grand-mère, puis mère, puis petite-fille. Hein, et chaque fois, chaque période est prise en charge par un enfant. Et ça, c'est important. Parce que tout est vu par la tête de l'enfant. Et tout ce qu'il raconte, même quand les autres personnages parlent, puisqu'il fait parler les parents, les grands-parents, etc., c'est des propos rapportés finalement, même si nous on les a en direct, c'est-à-dire qu'effectivement c'est vu, c'est ce qu'il a retenu lui, ce qu'il a marqué dans ce qu'il a entendu. Donc il y a aussi une part de subjectivité. Donc en fait, chaque récit est une adresse directe au public du narrateur, et puis ça se mélange très très souplement, ça glisse. J'ai beaucoup parlé d'arabesque dans les mises en scène de spectacle, on développe chaque fois un vocabulaire. C'est-à-dire que ça glisse très très souplement de voilà, je m'appelle Sol, j'ai 6 ans, je suis tout puissant, c'est formidable. Dès que je me réveille, je suis allumée, alerte, tête et corps en parfait état de marche. J'ai 6 ans, je suis un génie, première pensée du matin, et maman pense que, et pof, et on oriente sur le jeu entre les personnages dont il parle.
Le fil conducteur, en fait, de toute la pièce, sur les 4 générations, c'est le secret.
Oui.
On ne va pas le révéler, bien évidemment, mais qu'est-ce qui vous a plu vraiment dans cette notion de secret ?
Alors, si on racontait comme ça, on dirait, bon, c'est un roman qui traite du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se...
Transmet
de génération en génération, de dit, de non-dit, de... Il n'y a pas que des gros secrets de famille comme celui-là. Mais c'est aussi, et c'est aussi important pour moi... c'est aussi du transgénérationnel de l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'on passe de la guerre d'Irak à la dernière guerre mondiale, en passant par le laboratoire d'Israël. Et il y a aussi ce transgénérationnel-là. C'est-à-dire comment on est arrivé de là à là, en passant par ces secrets-là. Et il y a quelque chose sur lequel Nancy insiste beaucoup, et qui me semble important, c'est que ce secret de famille, puisqu'il y en a un indiscutable dans l'île de faille, c'est pas l'explication de tout.
On le connaît dès le début, le secret de famille, ou on le découvre petit
on
à petit,
quand même. On sait quand même qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le nazisme. Assez vite, dans la première partie de Sol, on prononce le mot Lebensborn, qui effectivement, comme dit Randall, on s'intéresse au côté glaive du nazisme la plupart du temps, mais on ne s'est pas beaucoup intéressé au côté berceau, qui était le cas de ces Lebensborn, qui effectivement, je pense, un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas beaucoup. Ces enfants enlevés, soit des enfants fabriqués, comme on fabrique dans un hara une sélection de races pour les animaux. Hein. Là, on le faisait pour les parfaits ariens. Une reproduction, comme ça, en choisissant, en sélectionnant les reproducteurs. Et puis, comme ça ne suffisait pas, on a volé des enfants au cours des campagnes, que ce soit en Pologne, que ce soit en Ukraine, des enfants qui avaient les caractéristiques physiques qui correspondaient à ça. Et ça, c'est un phénomène de l'histoire qu'on connaît peu. Mais il n'y a pas que ça, c'est pour ça que je voulais dire ça, c'est-à-dire que Nancy disait toujours, s'il s'agit de dire que les nazis étaient d'infâmes bonhommes, ça on le sait, ça n'amènerait rien. C'est presque une enquête policière sur comment se constitue un adulte, c'est-à-dire comment, quand on est enfant, on est influencé à la fois par des secrets de famille, des non-dits, l'histoire qu'on ne comprend pas, les choses qu'on entend à la radio qu'on ne comprend pas, des luttes entre les parents qu'on ne comprend pas. Parce que ce qui est important dans l'île de faille et qui, je crois, parle à tout le monde, c'est que ces quatre épisodes vus par la tête d'un enfant nous renvoient à une période de notre vie où on était en totale impuissance. T'as l'impression de rien comprendre au monde ou de le saisir que par bribes et de pas avoir du tout de subir absolument le pouvoir des adultes, le pouvoir de toutes les informations qui sont autour. Et d'être, oui, sans prise sur ces choses-là. Donc c'est effectivement ça qu'on suit dans l'île de faille. C'est-à-dire comment, par exemple, Randall, d'enfant, qui a toujours peur de ne pas être à la hauteur, devient finalement un beauf. C'est comme une enquête policière sur comment on se constitue en tant qu'adulte, comment on est influencé par toutes ces choses-là.
Toutes ces choses aussi qui se transmettent de génération et que l'on retrouve, et qui peuvent bloquer aussi les générations.
Oui, et qui là est symbolisé très joliment dans le roman par ce grain de beauté qui se transmet de génération en génération, qui remonte en plus, enfin, ou qui fluctue, mais en tout cas qui est un névus pigmenté et qui est effectivement une trace, une marque tangible de ce lien et qui est effectivement très habilement par Nancy décrit dans la première partie parce qu'on veut l'enlever, on veut effacer cette trace-là. Et en essayant de l'effacer, on crée une cicatrice qui est encore plus visible que la tache de naissance.
Oui. Je ferme la porte de ma chambre à ce moment-là. Et quand je reviens à la cuisine, ils ont changé de sujet. Ils parlent de mon grain de beauté.
Une intervention chirurgicale à l'âge de 6 ans. Mais pourquoi faire ?
Ma chère Hera, nous avons consulté à peu près tous les sites internet consacrés au névus pigmenté congénitaux. Et croyez-moi, il y a toute une série de bonnes raisons pour le lui faire enlever maintenant.
Mais Randall, tu ne peux pas. Tu ne vas pas la laisser faire ça. Et ta petite chauve-souris, tu aurais aimé que ta mère te la fasse enlever.
Ça, c'est une espèce de jeu qui remonte à l'enfance de mon père, quand son grain de beauté à lui, qui se trouve sur son épaule gauche, était une petite chauve-souris duveteuse qui chuchotait à son oreille et lui donnait des conseils. HGM en a un aussi au creux de son bras gauche. C'est ça le sens du mot congénital. Ça passe d'une génération à l'autre en apparaissant sur différentes parties du corps. Même si ça a sauté une génération, Mamie Sadie n'en a pas.
Hera, je suis désolée, mais nous devons absolument quitter le monde des métaphores.
Je crois aussi que le spectacle est vraiment basé sur l'émotion et toute forme d'émotion, du rire aux pleurs. Comment c'est restitué sur le plateau ?
Mais ce qui est assez magique, c'est de voir effectivement comment le public est dans une sorte de grand huit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où on rit beaucoup. Nancy a un sens de l'humour absolu. Et là, le fait que ça soit incarné, il y a des moments très, très, très drôles. Et juste après, on peut effectivement être embarqué dans une émotion totale. Et du coup, ce que je trouve important aussi, c'est qu'on peut se dire, oh là, c'est un spectacle long. Mais on a besoin de ça. Les gens sont embarqués. Quand je parle de grand 8, il y a vraiment ce sentiment-là, c'est de se dire, c'est le temps nécessaire, comme quand on plonge, par exemple, dans un roman qu'on n'arrive plus à poser.
Il faut s'immerger.
Et ouais, s'immerger et plonger avec ça et que les gens en redemandent.
Eh bien, merci beaucoup Catherine Marnas pour toutes ces informations sur votre spectacle. Je vous dis à très bientôt puisque l'on se retrouve dès l'automne pour parler de vos créations qui entrent dans le cadre de Marseille 2013, capitale européenne de la culture. Je rappelle aux auditeurs que Ligne de faille est adaptée du roman de Nancy Houston, mise en scène par Catherine Marnas, et que l'on retrouve sur le plateau les comédiens Sarah Chaumette, Julien Duval, Pauline Jambé, Franck Manzoni, Olivier Pols, Catherine Pietri, Bénédicte Simon et Martine Tinière. Ce spectacle est à voir du mardi 5 au dimanche 10 mars à 19h à la cartonnerie de la Friche Pelle de Mai à Marseille. Les infos et les réservations sur les sites lafriche.org ou parnasse.fr, qui est le site de la compagnie de Catherine Marnas, ou encore par téléphone au 04 95 04 95 95. À bientôt.
Ce qu'il y a avec les grandes personnes, c'est qu'elles prennent toutes les décisions toutes seules et que les enfants n'y peuvent rien.
Tu sais quoi, Randall ?
Et je dis même pas quoi, parce que j'en ai pas envie. Je sais que je vais me le taper, ce quoi, que je le veuille ou non.